France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ah, chaque année, sa réforme de la réforme. Depuis la première entrée du nouveau bac, celui de Jean-Michel Blanquer, il a beaucoup bougé à la marge. Le principe d'un contrôle continu en plus des épreuves finales reste la matrice. Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup autour de la matrice. Cette année, il y aura des devoirs à coefficient zéro. Ça veut dire que toute note obtenue par votre fils ou votre fille ne comptera pas forcément pour le bac et donc pour Parcoursup, ce qui permet aux jeunes gens de respirer un peu, de faire redescendre le stress. Ce qui est aussi sur la table, mais ça va avec les notes en coefficient zéro, c'est ce qu'on appelle des plans locaux d'évaluation que chaque établissement devrait avoir mis en place depuis longtemps et devra désormais avoir mis en place d'ici aux vacances de la Toussaint. Nous entrerons bien sûr dans le détail de ce que ça veut dire et de ce que ça change, mais en résumé, l'idée c'est de mieux harmoniser les notes, qu'il n'y ait pas de disparité flagrante d'une classe à l'autre. Il s'agit aussi de refléter plus fidèlement le niveau des élèves. C'est en tout cas comme ça que c'est vendu par l'éducation nationale. Alors est-ce que ce nouveau changement permettra donc à la fois de mieux gérer le stress des élèves, d'arriver avec les mêmes chances aussi devant en Parcoursup, mais aussi de remettre du poids dans le bac dont certains ont considéré qu'il avait perdu de ce poids-là, puisque en misant tout sur le contrôle continu, les pourcentages se sont mis à augmenter drastiquement. C'est aussi l'un des souhaits d'Elisabeth Borne, la ministre de l'éducation nationale. Donc moins de stress, plus de poids, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Vous qui avez des enfants qui entrent en terminale, vous qui êtes en terminale depuis ce matin, appelez-nous aussi bien sûr, vous êtes de l'autre côté du pupitre, c'est-à-dire dans la salle des profs, mais ça, vous en avez largement l'habitude, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Frédéric, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Eh bien, bonsoir à tous. Je vous appelle pour témoigner, mais en tant qu'enseignant, enseignant depuis longtemps en lycée. Et j'étais assez surpris d'apprendre, par voie de presse comme d'habitude, ce genre de réforme. Et moi personnellement, je préfère faire compter toutes les notes, voire en tout cas un maximum de notes dans le contrôle continu, justement pour pouvoir diluer l'impact de chacune des notes, quoi. Je pense qu'un élève peut tout à fait avoir une contre-performance sur une évaluation, c'est humain, et qu'il aura beaucoup plus de facilité à se rattraper si justement il a beaucoup d'évaluations plutôt qu'un nombre restreint d'évaluations.
Merci Fred pour... je vous appelle Fred parce que c'est comme ça que vous vous êtes présenté au standard. Pardon Frédéric pour ces remarques et c'est intéressant ce que dit notre auditeur pour en discuter ensemble et voir un peu ce qui change pour ce prochain bac. Autour de la table, il y a Pierre Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien directeur de Sciences Po Lille. Vous avez été chargé de la réforme du bac en 2017. Il y a Grégoire Ancel qui est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la Fédération des parents d'élèves, donc la FCPE, et vous êtes en duplex depuis nos amis de ici Bourgogne à Dijon, et on les remercie. Je vais vous poser la question à tous les deux, Pierre Mathieu. Je comprends qu'on puisse dire que moins d'évaluations dont on dit d'abord « attention, ça va compter, ça stresse terriblement les élèves », en même temps, il a raison Fred, s'il y en a beaucoup et que c'est dilué, ça déstresse aussi beaucoup, non ? Ou pas. Donc vous dites quoi en fait ? C'est quoi le juste milieu ?
Je dis que les professeurs ont la liberté de faire comme ils l'entendent. Il faut le rappeler ici, c'est très important. Et les professeurs qui nous écoutent en cette première journée de reprise sont très très sensibles à ça, quel que soit le niveau auquel ils enseignent.
Mais ça veut dire que ce coefficient zéro, c'est...
ça existe déjà. En réalité, il y a beaucoup de professeurs qui le font déjà. Ils préviennent leurs élèves en leur disant l'épreuve, le contrôle que je vais vous faire passer aujourd'hui,
ça compte pas.
Il va pas compter. C'est ce qu'on appelle de l'évaluation sommative. Ça me permet à moi, professeur, de voir où vous en êtes dans votre progression de notes. En revanche, comme vient de le dire Fred, donc là, à l'antenne, il y a d'autres professeurs qui vont dire à leurs élèves « je vous donne plein de notes, et puis comme ça, ça vous permet, en effet, comme ça a été dit, de diluer, ou j'enlèverai la moins bonne des notes. »
Exactement. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Parce que moi, mon premier réflexe, alors moi, j'ai pas d'enfant en terminale, mais mon premier réflexe, ça a été de dire « au bout de l'année, chiche qu'on enlève, par exemple, la pire des notes et la meilleure. » Donc voilà, on fait même deux extrémités, le 20 sur 20, parce que ça ressemble à rien, et le 2 sur 20, quand on a eu un accident, quoi.
Mais il y a probablement énormément de professeurs qui le font. Le problème n'est pas que les professeurs ne le font pas. La question est plutôt que ça soit non pas normé, mais que ce soit peut-être plus transparent et plus systématique. Il y a des profs qui le font, d'autres qui ne le font pas. Et je pense que le problème aujourd'hui qu'on avait tenté de résoudre en 2021, puisque vous avez évoqué tout à l'heure les plans d'évaluation d'établissement, on les avait proposés en 2021. Le ministre Blanquer, à l'époque, avait fait une circulaire en juillet 2021 pour demander à ce qu'il soit mis en place, non pas pour limiter la liberté des enseignants de noter, de donner tant de notes, mais que ce soit assez précis, assez clair pour les élèves. Vous voyez, en début d'année, vous avez, LVA, enfin anglais, première langue, de savoir combien vous allez avoir de notes, quelles notes vont compter ou pas, etc. C'est important, je pense, dans la gestion du stress.
On va revenir à ce que c'est que ce plan d'évaluation. Je voudrais me tourner vers vous, Grégoire Ancel, sur à la fois ce qui est proposé, c'est-à-dire de faire vraiment entrer l'idée d'une, de certaines notes à coefficient zéro pour faire tomber le stress. Vous aviez beaucoup dit à la FCPE qu'il fallait effectivement faire tomber le stress des enfants. Une solution comme celle de Fred qui dit mais c'est l'inverse en fait, parce qu'on peut aussi diluer les notes quand il y a un accident. Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors nous, ce qu'on en dit, c'est qu'effectivement, on alertait depuis 2023 en disant qu'il y avait un stress qui était anormal. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer le fait de mériter son diplôme, de travailler, de s'accrocher, de vouloir faire de son mieux, d'avoir des échecs, d'avoir des réussites, etc. Ça, c'est une chose. Mais nous, ce qu'on constate au quotidien pour les parents d'élèves au lycée, c'est un stress intense, c'est la vie au rythme des notes permanentes, le calcul des coefficients, parce qu'on a maintenant des élèves extrêmement stratèges qui calculent chaque coefficient, chaque note, pour savoir où ils en sont. Et la note devient l'intérêt même de l'apprentissage, c'est quelle note je vais avoir plutôt que ce qu'on y apprend. Donc en fait,
mais on ne peut pas leur en vouloir. Moi, si j'étais eux, je ferais exactement la même chose, hein, Grégoire Ancel. Oui. Évidemment, enfin, à un moment, il faut être stratège.
Tout à fait.
C'est hyper important pour après. Donc,
voilà. Surtout avec Parcoursup. Donc là, enfin, l'étau se dessert et on vient toucher avec Frédéric le sujet essentiel, c'est qu'est-ce qu'on apprend, pourquoi, comment. Nous, on constate quand même que des fois, il n'y a que deux notes dans le trimestre. Dans certaines matières. Et deux notes, ça fait pas de moyenne, c'est au moins trois. Donc quand il y a beaucoup de devoirs qui permettent de se rattraper, c'est bien. Mais nous, on a milité depuis longtemps, et ça a été appliqué par certains professeurs, mais c'est loin d'être le cadre général. C'est comme vous le disiez, la note droit à l'erreur.
Mais,
c'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas avoir une performance à un moment donné.
La note droit à l'erreur,
regarde comment compenser.
Je suis totalement d'accord avec l'idée, évidemment, d'une note droit à l'erreur, mais je voudrais comprendre comment vous l'imaginez, Grégoire Ancel. Parce que si, à un moment, le prof dit ça va pas compter, et qu'on se plante là-dessus, c'est pas grave. Mais si on se plante à la prochaine qui compte, on se dit, est-ce qu'on pourrait inverser mon droit à l'erreur, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on pourrait inverser le droit à l'erreur ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Parce que sinon, je vois pas en quoi ça enlève du stress, en fait.
En fait, il ne faut pas que ce soit la négociation permanente. Et c'est un peu à quoi on assistait dans la relation parents-prof, enseignants, etc. C'est qu'il y avait une tentation, au vu du poids du contrôle continu dans Parcoursup, il faut quand même rappeler que l'ensemble des bulletins de première comptent et les deux premiers bulletins du trimestre de terminale comptent pour beaucoup. Et donc, quand on voit le poids que ça a pour le choix des vœux par la suite et la sélection, il y a une hyperpression. C'est là que le nœud se tend. Et donc, si c'est transparent, clairement dit à l'avance, l'enseignant dit sur quoi il évalue, quel est le coefficient, ce qu'il va regarder, comment il va pondérer ses notes, si ça compte, si ça compte pas. Mais voilà, ça va permettre un dialogue, une compréhension et de la transparence. Et là, les choses s'apaisent déjà beaucoup.
Grégoire Mathieu, puis on retourne au standard juste après.
Pardon, excusez-moi. Non, ce que vient de dire monsieur Ancel, en 2021, donc c'était pas l'équipe actuelle de la FCPE, mais dans les discussions qu'on avait eues dans le cadre du comité de suivi que je co-présidais, on avait eu des discussions très intéressantes avec les trois fédérations de parents d'élèves, donc les deux du public, celle du privé, autour de ce qui vient d'être dit. Et la fameuse note dont je parlais tout à l'heure de Jean-Michel Blanquer, elle portait là-dessus. Effectivement, comme ça vient d'être dit, moi il me semble que dès lors que c'est assez clair pour un élève, quand au fond les règles du jeu sont posées, il y a beaucoup de stress qui descend et aussi beaucoup de contestation, parce qu'en effet ça vient d'être évoqué un petit peu, les notes comptent pour le bac d'un côté, mais elles comptent aussi dans Parcoursup, donc il y a une espèce de fantasmagorie autour de la note qu'on obtient, et l'idée de dire que si à un moment donné on a une mauvaise note, son avenir dans l'enseignement supérieur est fichu en l'air. Alors voilà, donc c'est ça. Alors je rappelle quand même, parce qu'il faut toujours se resituer, c'est que avant même la réforme, toutes les réformes là, même avant Parcoursup ou APB, il y avait beaucoup les filières sélectives d'enseignement supérieur, on y accédait, les classes prépa, les BTS, on y accédait sur la base des bulletins. Donc vous et moi, Fabienne, quand on était élèves, si on voulait faire une classe prépa, les notes qu'on obtenait durant l'année, elles comptaient aussi pour le... Donc il ne faut pas penser que c'est là... Enfin, je défends un peu ma chapelle.
Non, mais c'est vrai, à l'époque,
sur
ces écoles-là, c'était ça, plus le bac, en fait, mais plus la mention.
Voilà, et donc quand vous parliez tout à l'heure, vous disiez le droit à l'erreur. On pourrait imaginer, pour reprendre ce que disait donc Fred tout à l'heure, que finalement, un professeur dise à ses élèves en début d'année, toutes les notes que je vous donne comptent, mais à chaque trimestre, j'enlève la moins bonne des notes que vous obtenez, quel que soit l'exercice que vous avez fait pour cette note. C'est pas mal, voilà.
L'important, ce serait que chacun puisse faire exactement comme il le sent et comme il le veut, parce qu'il y a quand même un écueil. Et vous l'avez souligné d'ores et déjà. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
On le voit venir, l'écueil. On vous écoute.
Oui, alors moi j'ai un fils qui rentre en première et je suis par ailleurs professeure d'une matière qui est considérée comme très secondaire par les élèves. à savoir la LVB. Mmh. Et donc la réaction de mon fils et de mes élèves a été exactement la même. Si la note ne compte pas,
donc je fais rien.
À quoi ça sert de réviser? Et donc moi, à quoi ça sert que je fasse le contrôle, quoi.
Et du coup, comment vous allez régler ça, vous, par exemple, qu'est-ce qu'il faut ruser? Est-ce que l'une des manières de ruser, c'est pas exactement ce que vient de dire Pierre Mathieu, c'est-à-dire se dire que les élèves savent qu'il y a une note qui comptera, pardon pour du beurre, en tout cas pour ce qui est de l'évaluation de Parcoursup, mais ils savent pas laquelle c'est, comme ça ils bossent quand même, non?
Oui, avec la difficulté qu'on est censé, en langue vivante, les évaluer dans différentes compétences. Mmh. Donc on est censé les évaluer sur l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'oral. On a un nombre d'heures qui est très limité, et si on veut pouvoir mettre une note dans chacune des compétences à chaque trimestre, il faut compter pratiquement toutes les évaluations dans la moyenne. On n'a pas le choix d'en enlever une.
Et si on vous dit... vous pouvez pas... ça fait combien d'évaluations à la fin, par exemple, est-ce que ça fait 6? Et donc, vous faites une moyenne sur 5? C'est pas possible de faire une moyenne sur 5?
Je peux pas, j'ai pas le temps de faire 6 évaluations, moi, dans le trimestre. C'est pas possible.
Donc, il y en a combien par trimestre, que je me fasse une idée, en fait?
Il y en a 4, parfois okay. Il y en a 5.
Bon, ce qui permet d'en enlever peut-être une, Pierre Mathieu, mais visiblement, Catherine a l'air de dire que c'est compliqué.
C'est sans doute compliqué, mais je pense d'abord, parmi les soucis qu'on rencontre, c'est qu'on est encore très souvent dans 90% des lycées sur la base d'un trimestre et pas d'un semestre, si je puis me permettre. Si on avait un semestre, les professeurs, les collègues auraient le temps de donner plus de notes. Mmh. Donc déjà, ça permettrait ce qu'on disait tout à l'heure, de peut-être d'en enlever une, la moins bonne. Donc ça, c'est assez important. Et puis après, il y a aussi une confusion qui est faite par beaucoup de monde entre les notes qui vont compter pour le contrôle continu et le livret scolaire, le bulletin. Et que beaucoup de collègues pensent que toutes les notes qu'on donne, elles vont compter pour le contrôle, les élèves aussi, elles vont compter pour le contrôle continu du bac. Donc par exemple pour la LVB, QF3 en première, QF3 en terminale. Or, dans les textes, rien ne dit ça. On peut tout à fait avoir des notes de bulletin, une moyenne, vous avez 15, votre bulletin, mais par contre, le contrôle continu, vous avez 16. Et il y a une espèce de confusion qui a été opérée au moment de la mise en place de la réforme, et aujourd'hui, on considère que contrôle continu égale bulletin ou livret scolaire, ce qui n'est pas le cas.
Ce qu'on a perdu et qu'il faut retrouver, de ce que je comprends, Grégoire Ancel, c'est à un moment, l'apprentissage et donc aussi les notes, ça sert aussi à progresser, en fait. Et on a l'impression qu'on a perdu cette notion-là, en fait, de progrès, parce qu'on joue sa vie sur chacune des interrogations qu'on a en face de soi. Donc au fond, on ne se rend même pas compte de ce qu'on a progressé ou de ce qu'on n'a pas progressé, si ce n'est qu'on a bachoté comme des fous avant chaque examen ou chaque devoir.
C'est exactement ça. Je vais prendre une image peut-être un peu simpliste. Une classe, c'est comme le peloton du Tour de France. Vous avez des grimpeurs, vous avez des suiveurs, vous avez la lanterne rouge et des hauts, des bas et du plat. Et sur le bord de la route, il y a les entraîneurs, il y a le public qui sont les parents, la famille, etc. Et le but, c'est comment est-ce qu'on accompagne chaque élève à franchir sa montagne, à progresser, sans que la sanction de l'étape du jour soit toujours celle du lendemain. C'est-à-dire que c'est en fait assez épuisant quand on observe les lycéens qui nous entourent, et j'invite toutes les personnes qui ont des lycéens à observer leur rythme dans l'année. C'est quand même un vrai parcours du combattant, et ils le méritent, leur bac, ils le veulent pas. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et l'évaluation est là pour montrer les écarts, permettre le progrès, permettre de remédier. Il y a, comme c'était évalué, dit tout à des évaluations sommatives, certificatives. Donc le but, c'est de permettre à l'élève de se mesurer, de progresser et d'avancer. Et aujourd'hui, avec la pression qu'on a constatée, les taux se desserrent un petit peu, mais il faut qu'on fasse attention avec le thermomètre. Et tout à l'heure, il était évoqué les comités de suivi. Je discutais avec une des personnes, monsieur Mathieu, avec lequel vous avez beaucoup travaillé en comité de suivi, et nous, on regrette que ça fait 2 ou 3 ans de mémoire.
Attendez, excusez-moi, je voudrais bien suivre. Est-ce que les plans locaux d'évaluation et les comités de suivi, c'est pareil ou pas du tout?
Non, mais attendez, le plan local d'évaluation. Le plan local d'évaluation, c'est à l'échelle de chaque établissement. C'est voté de mémoire en conseil d'administration et c'est extrêmement clair. Ça explique comment on évalue, comment on fait quand un élève n'est pas présent.
Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient censés être mis en place, alors que ça ne l'a pas été dans la plupart des établissements. C'est aussi ce que je comprends. Et je vois Pierre Mathieu qui fait oui avec la tête.
On est d'accord. Et des fois, ils sont de purs copier-coller, ils n'ont pas été vraiment concertés. D'accord. C'est là où ça pêche. Okay, et puis, il y a des comités de suivi nationaux. On travaille avec le ministère, les équipes, et on propose des choses qu'on vient de dire. Et effectivement, la note droit à l'erreur a été évoquée à l'époque, très clairement par les CPEI portés. Voilà. Et si vous voulez, c'est dans ces moments-là où on a besoin aussi de se rencontrer entre fédérations de parents, enseignants, représentants des personnels, le ministère, et de trouver des bons équilibres. Et aujourd'hui, ça va un peu vite quand même. Il n'y a pas eu une année sans ajustement dans la réforme du lycée.
Alors ça, c'est une réalité, effectivement, Pierre Mathieu, il n'y a pas eu une année sans ajustement. Alors ajuster, d'accord, mais effectivement, à un moment, ça montre aussi que tout ça est un peu mouvant. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'on voit bien ce qui se passe à chaque moment de Parcoursup. Ce qu'on entend de la part des élèves et de leurs parents, c'est de dire, attendez, il y a des disparités à l'intérieur de mon lycée, d'abord, entre deux profs de philo, deux profs d'histoire, et ça, quand même, ça craint. Parce qu'au moment d'arriver à Parcoursup, je vais me retrouver lésé par rapport à un autre, mais il y a aussi des différence évidemment d'un lycée à l'autre, évidemment d'une académie à l'autre. En quoi est-ce que assouplir un peu le contrôle continu permettra de lisser un peu les inégalités qu'il peut y avoir au moins d'un établissement à l'autre ?
Enfin, assouplir. Bon, d'abord, ça a été dit, je pense, par Monsieur Ancel. Moi, je pense, c'est normal que je le dise, puisque c'est moi qui suis un peu à l'origine de ça, qui est à la fois du contrôle continu, du contrôle final, qui compte pour le baccalauréat, hein, pour filer la métaphore du Tour de France, ça évalue des compétences d'endurance et de sprint. Donc, moi, j'ai toujours pensé que c'était plutôt pas mal. Je pense que les élèves, par-delà le stress qu'ils ont à gérer, sont assez d'accord avec cela. Stress qui est, à mon avis, moins lié à l'obtention du baccalauréat, qu'à Parcoursup,
bien sûr,
en fait, hein, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, le baccalauréat est obtenu assez... Enfin, les taux de réussite sont bons. Ils étaient déjà très très bons avant la réforme du bac, attention.
Ils étaient à 91,1% juste avant la réforme, ils sont à 96,4%.
Pour le bac général.
Pour le bac général.
Pour le bac général, absolument, qui est l'un des trois bacs.
Ouais. Donc c'était déjà haut, mais alors maintenant,
c'est très haut.
En gros, on est vraiment super, voilà. Super
haut. Oui, tout à fait. Mais
du coup, est-ce que ça veut dire, pardon, je vous interromps, mais... il faut le faire aussi redescendre un peu, en fait. Redonner du sens, c'est aussi ce qu'a dit Elisabeth Borne, elle part de redonner du poids. Ça veut dire faire redescendre, quand elle dit par exemple qu'on passera plus le rattrapage quand on a 8 sur 10, mais qu'il faudra avoir 9,5 sinon on ne va pas au rattrapage, ça veut dire on redonne du poids quand même. Ça veut dire qu'il fallait redonner du poids au bac quand même.
Oui, mais je crois qu'on a... C'est terminé l'époque où maintenant on est à 82% d'une classe d'âge qui réussit le baccalauréat, les taux de réussite, quels que soient les bacs, sont autour de 90-95%. On est en train de mener un combat d'arrière-garde. Le bac... quand on l'a passé, nous, je pense, à peu près en même temps, c'était encore une épreuve qui était réussie par très peu de monde. Il y a 40 ans pour moi, 29% d'une classe d'âge avait le bac, il y avait un tiers qui ratait l'examen. Aujourd'hui, ça a changé. Le bac est, si vous voulez, un point de passage dans un cursus qui, pour la plupart des jeunes, continue.
Mais du coup, Pierre Mathieu, soit on le garde parce qu'il a du poids, soit on l'enlève, parce que du coup, on s'en sert pas.
Non, alors
Mais du coup, on est dans l'ersatz, là, aujourd'hui, non?
Non, je pense qu'il ne faut pas l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est aussi, quelque part, un rite de passage dont la jeunesse a besoin. Comme le DNB, le brevet des collèges, est réussi par 9 sur 10 des jeunes, c'est important quand même de passer un examen pour passer à l'étage supérieur.
On y reviendra là-dessus, Grégoire Ancel. Je voudrais qu'on retourne au standard, et c'est Bruno qui nous y attend. Bonsoir, Bruno.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je viens d'entendre à l'instant... enseignant récemment à la retraite, j'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs systèmes éducatifs, près de 5 ans en Égypte, 3 ans en Finlande, à Helsinki, et en Amérique latine, à Buenos Aires, pendant aussi près de 5 ans. Et bien sûr, en France précédemment, et par intermittence entre différents séjours à l'étranger. Ça m'amuse d'entendre vos intervenants dire « il faut des examens ». J'ai vécu des systèmes verticaux, évidemment, au Proche-Orient, et des systèmes très participatifs, évidemment, en Europe du Nord. Mmh. Et en Europe du Nord, on sait très bien que les enquêtes PISA prouvent qu'ils sont bien au-dessus du niveau français, et il y a très peu d'examens. Moi, je ne suis pas du tout pour les évaluations comme on les fait en France, parce que les évaluations et les examens, c'est une perte de temps considérable. Je m'en explique. Tout à l'heure, une collègue disait « je n'ai pas le temps de faire X évaluations par an, etc. Mmh. » Le raisonnement selon lequel on avait des semestres et pas des trimestres, des trimestres et pas des semestres. L'évaluation, un, il faut les préparer. On a en France des comités de rédaction d'examens, on a des bureaux qui sont dédiés à ça. Ce ne sont pas des enseignants qui sont face aux élèves. Deux, il faut les faire passer aux élèves. Ils planchent je ne sais combien d'heures par semaine, par an, par trimestre, sur leurs examens. Trois, il faut les corriger, soit à la salle des profs, soit à domicile. Puis après, il faut les corriger en classe, avec le contrôle continu. Eh bien, on passerait un temps bien plus intelligent à enseigner et à demander aux élèves, comme on le fait en Finlande et dans d'autres pays, de s'auto-évaluer. Parce qu'on part en France du principe que c'est, ça va du simple vers le compliqué. De la maternelle primaire tout simple au compliqué vers le bac. Alors, Or, c'est compliqué dès le départ. Et demander aux élèves, dès tout petit, de savoir s'auto-évaluer sur l'emploi du temps, sur la gestion du temps, faire la différence entre une compétence, tout à l'heure la collègue parlait de compétences, mais on parle de moins en moins de connaissances, des connaissances verticales, académiques, qu'elles soient littéraires, mathématiques, sont importantes. Aujourd'hui, on parle de compétences transversales, sur le clavier, le savoir-vivre ensemble, bien sûr que c'est important, mais demandons donc à nos élèves de s'auto-évaluer, et on a un système éducatif dont nous sommes prisonniers avec beaucoup trop d'évaluations.
Merci beaucoup Bruno, alors je ne sais pas si on est mûr pour nous auto-évaluer, Grégoire Ancel, ce serait un peu une révolution, mais c'est vrai que la manière de noter, c'est l'un des totems de l'éducation nationale. Peut-être qu'il faut trouver quelque chose, une espèce de souplesse, en fait, dans notre manière de noter, où, effectivement, on a un peu l'impression que la différence entre un 16 et un 18,5, c'est le jour et la nuit, et puis c'est mon avenir foutu ou mon avenir réussi. On sait aussi, par ailleurs, on en parlait dans le bureau, Monsieur Ancel, en préparant cette émission, c'est Pierre, notre attaché de production, qui disait, moi j'avais un prof de philo qui n'allait jamais au-dessus de 12, parce qu'il considérait qu'on ne peut jamais penser au-dessus de 12 quand on est en terminale. Quand on tombe sur un prof comme ça, c'est pas pareil que quand on tombe sur quelqu'un qui a une notation bienveillante et qui dit, c'est bien pensé, je te mets 16. Et ça crée une terrible inégalité. Est-ce que le totem des notes, il ne faut pas le faire un peu sauter, Grégoire Ancel, ou en tout cas, lui desserrer un peu son carcan?
En fait, je pense que l'enjeu, c'est d'ouvrir les chakras sur la question de l'évaluation. Il y a des tas de façons d'évaluer les élèves, en groupe, en individuel, en auto-évaluation, ça vient d'être dit. C'est d'autant plus important parce que j'ai trouvé une note de l'ADEP, vous savez, c'est la direction d'évaluation du ministère, qui a fait une étude sur le bac 2023 et a regardé aussi 2022 et 2024. Et on s'est aperçu, c'est une note tout à fait officielle, que les lycées qui obtiennent les meilleures notes dans les épreuves terminales, dans toutes les matières, sont celles qui sous-notent le contrôle continu. Et l'écart de notes entre la moyenne du contrôle continu dans les matières de ces établissements et la note de leurs élèves en épreuve terminale...
Attendez, pardon, je comprends pas la logique, parce que s'ils sous-notent, logiquement, en effet, ils ont une meilleure note au moment de l'examen, sur table.
Mais oui, et ça va de 0 à 4, sauf que, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le contrôle continu qui compte pour Parcoursup.
Ok.
Et pas les épreuves terminales. Mais du coup, vous voyez le hiatus ?
Mais du coup, je reviens à la question de base, Grégoire Ancel, que je posais tout à l'heure à Pierre Mathieu. En quoi le fait de soulager un peu les élèves, ce que j'ai bien compris, avec certaines épreuves en coefficient 0, changera cette énorme disparité qu'il peut y avoir d'un établissement à l'autre ?
Eh bien, ça va déjà desserrer les taux de la pression. Objectivement, nos lycéens, ce sont un peu comme des hamsters dans une roue. Ça a été évoqué. On prépare l'évaluation à venir dans toutes les matières, on apprend les cours, on se prépare. C'est vraiment un parcours extrêmement difficile. Et si on ne vient pas desserrer un peu les taux, essayer de glisser les choses, d'harmoniser entre les établissements à l'échelle locale, nationale, parce qu'il y a toujours ce totem de Parcoursup qui va regarder à l'échelle nationale, qui va comparer les élèves entre eux. Donc il y a un enjeu d'harmonisation qui est crucial. Et la question du contrôle continu, elle est vraiment au centre du débat sur la façon dont on évalue. Et puis, il va peut-être falloir qu'on se pose aussi une question. Peut-être qu'il faut envisager d'apprendre moins pour apprendre mieux. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, le niveau du bac, il a franchement monté dans les attendus des matières. Et ça n'a pas toujours été dit.
Pierre Mathieu, alors je ne vais pas casser le bac tel que vous l'avez imaginé, mais plus j'entends là ce dont on est en train de parler, plus on se rend compte qu'effectivement, depuis le début, il y a un problème d'équité pour chacun des élèves dans le contrôle continu, selon le lycée dans lequel on est, le département ou l'académie dans laquelle on est. On est doucement en train de plaider pour un retour, ou en tout cas un rééquilibrage vers le devoir sur table, qui pour le coup est équivalent pour chacun à la fin de l'année, à la fin du mois de juin, pour les élèves de terminale.
C'était la position notamment du SNES au moment de la réforme du bac, qui était contre le contrôle continu au nom de ces tests, on va dire comme ça, je vais le dire méchamment, d'illusion selon laquelle, dès lors que l'examen est national et anonyme, la note serait scientifique. Parce qu'en France, on est dans l'illusion décimologique, qu'on donne des notes qui correspondent à un niveau, alors que voilà.
D'où l'idée de casser le totem des notes.
Oui, mais n'oublions pas une chose, c'est que le bac, les épreuves terminales du bac se passent au mois de juin. Parcoursup, c'est avant. Mmh. Donc, quoi qu'il arrive, désormais, on a un mécanisme d'affectation dans l'enseignement supérieur qui repose sur les notes obtenues au lycée.
Ouais, mais voyez, avant. Je lisais, pardon, en préparant cette émission, une interview de Louise Vassy, qui est le patron de Sciences Po, et qui disait, moi, je regarde de plus en plus l'écrit en français, donc celui, effectivement, de la première, parce que, effectivement, ça rentre en ligne de compte, et parce que je sais que c'est l'un des seuls moments où chacun est sur ce pied d'égalité.
Vous allez me redonner moyen de redire une chose que j'ai dite la dernière fois que vous m'avez invité avant l'été, c'est que, évidemment, comme on a transféré, alors que je n'étais pas d'accord, les deux épreuves de spécialité en juin, pour répondre à une revendication des organisations syndicales.
Au début, c'était mars, et c'était compliqué. C'est l'un des premiers changements.
Parce qu'il y avait eu de l'absentéisme, les professeurs avaient dit il y a de l'absentéisme, donc ça renvoie à ce que M. Ancel dit, les élèves avaient passé l'épreuve, ils n'allaient plus en cours, ce qui est quand même un peu dramatique, mais bon, c'est un peu humain en même temps, on ferait probablement tous un peu la même chose. Et le résultat des cours, c'est qu'effectivement, la seule note d'écrit dont dispose l'enseignement supérieur au moment de Parcoursup, c'est le français de première. Vous voyez, donc ça a déséquilibré en quelque sorte un petit peu les choses. Mais n'oublions pas, on parle des lycées, M. Ancel l'a évoqué. Là encore, je reviens en arrière. Avant la réforme du bac, avant même APB, donc avant 2007-2008, pour toutes les filières sélectives de l'enseignement supérieur français, c'était les bulletins, caché derrière le bulletin, le lycée. Les établissements privés qui notaient sévèrement au niveau du bulletin, mais les professeurs du SUP qui savaient que tel enseignement établissement privé, comme c'était lui, au bac, les élèves auraient
le système n'était pas meilleur, effectivement. Voilà, mais la question qu'on... j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas trouvé, vous allez m'arrêter si je me trompe, monsieur Ancel, on n'a toujours pas trouvé un système qui serait vraiment un système d'équité pour chacun, en fait, et où donc on aurait vraiment... Chaque élève aurait le sentiment de partir sur la même ligne de départ au moment du bac, au moment surtout d'envoyer pour Parcoursup.
Tout à fait. On cherche encore la pierre philosophale du lycée.
C'est l'idée.
On va la trouver. Voilà. Nous, on est, à l'FCPE, favorable au contrôle continu. Mais pas dans une pression extrême qui vous met dans la seringue et vous fait perdre tout sens de l'apprentissage et où la note devient l'objectif de la note pour Parcoursup.
Alors,
j'attire l'attention, excusez-moi, juste des auditeurs sur un point. La note de maths qui vient d'être introduite pour cette rentrée en première, cette nouvelle épreuve anticipée. Je me rappelle que Pierre Mathiot était extrêmement favorable à l'enseignement des maths tout au long du parcours, qui n'avait pas été entendu à l'époque.
Et qui revient.
Et on y revient aujourd'hui. Et ce sera le thermomètre scientifique pour les établissements qui recrutent dans le domaine scientifique. C'est le pendant de la note de français. Il faut bien en avoir conscience. Et c'est effectivement un thermomètre national.
Donc ça veut dire que de toute façon, où qu'on aille, quelqu'un a toujours besoin d'un thermomètre et on se demande à chaque fois quel est celui qui concerne qui, ce qui reste très confusant, si je puis dire, pour les étudiants. Et donc, source de stress, c'est là que vous voulez en venir. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Laurent.
Merci. Alors effectivement, je voulais revenir sur la notion de stress. J'ai plus de 30 ans d'expérience professionnelle, j'ai dû embaucher une petite centaine de personnes qu'il a fallu évaluer, trier, et puis ensuite évaluer aussi au long de leur carrière professionnelle. Je pense que le stress fait partie de la vie professionnelle. Donc de dire les élèves ont trop de stress, il faut mettre en avant le contrôle continu et non pas l'épreuve le jour J, je pense va les desservir plus que les servir pour ensuite vivre dans la vie professionnelle. Je pense que l'école doit quand même être là pour non seulement effectivement faire acquérir des connaissances, plus de des compétences, comme ça a été dit précédemment, mais aussi pour faire face à la vie réelle. Et quand on regarde cette notion de stress dans la vie professionnelle, bah vous devez rendre un rapport, une présentation à un jour J. Vous n'avez pas 3 jours, 6 mois pour dire « ah ben non, je ne suis pas prêt ».
Bien sûr,
donc vous allez être évalué tout au long de votre vie professionnelle.
Et faire une présentation orale, etc.
Exactement, et j'allais dire même, je veux dire, cette notion d'être prêt le jour J, regardez les derniers Jeux Olympiques, nos champions olympiques ont été prêts le jour J. Même si on a le droit à l'erreur, on a le droit à l'erreur, mais dans la vie professionnelle, vous devrez rendre compte le moment où on vous le demande. Et non pas en disant, mais c'est de manière continue, vous verrez, dans 6 mois, j'aurai réussi ce que j'aurais dû faire il y a 6 mois.
Voilà.
Donc l'école doit aussi servir à préparer nos jeunes à la vie professionnelle qui n'est pas un monde de bisounours.
Alors, merci beaucoup Laurent. On l'a eu cette conversation dans le bureau juste avant le téléphone sonne. J'ai vu que vous vouliez intervenir Monsieur Mathiot, mais vous d'abord Grégoire Ancel, si je puis me permettre, vice-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves, parce que c'était l'un de vos arguments, le stress. Et moi j'avoue que ce que nous dit Laurent, je trouve ça intéressant. À quel moment effectivement, à 17-18 ans, on commence à se confronter à une forme de stress. Il n'est pas question d'en faire des... Enfin, que ce soit très très grave, mais un peu de stress, non ? Vous ne croyez pas ?
Ah, et on est d'accord sur le fait que son diplôme, il faut le mériter, il faut travailler, il faut être au rendez-vous au moment où on vous demande de produire et de composer. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que, par rapport à ce que vient de dire l'auditeur qui a appelé, on leur demande tous les jours, toutes les semaines, d'être au rendez-vous avec ce contrôle continu, dont toutes les notes comptaient jusqu'à maintenant pour Parcoursup et le contrôle continu. C'est pas juste une épreuve à rendez-vous de temps en temps fixé dans 2 mois. C'est tous les jours. Et vous avez tous les jours les notes qui tombent. Et en fonction de votre objectif de compétition, vous savez si vous êtes dans la cible ou en dehors de la cible.
Mais je comprends, mais ce que j'ai toujours pas compris, Grégoire Ancel, si vous me le permettez, c'est que on pense qu'on fait descendre le stress s'il y a au moins une note qui est en COEF 0 et qui compte pas. Mais alors, moi, vraiment, si j'étais dans la situation d'un lycéen aujourd'hui, je me reposerais sur mes lauriers parce que ça me détend une épreuve à zéro coef et je serais tout aussi stressée pour l'épreuve suivante qui a un vrai coefficient. En fait, je ne comprends pas très bien en quoi ça les déstresse, si ce n'est qu'au moins une fois, ils peuvent aller à l'épreuve un peu plus décontractés.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, ça va se décliner dans chaque lycée et c'est un travail d'échange d'abord pédagogique entre les enseignants. Ça va être un moment, j'imagine, d'échange au conseil d'administration pour discuter avec les parents et avec les équipes pour tomber d'accord sur ce dispositif, ce plan local d'évaluation. Mais l'enjeu, c'est vraiment de desserrer les taux et de se dire, j'ai le droit de me planter. Excusez-moi l'expression, j'ai le droit à un moment donné de pas faire chuter ma moyenne générale. Je poursuis sur ce point-là par rapport à mon objectif. Et aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à l'erreur.
Je suis d'accord avec vous. Le droit de se planter, c'est une évidence. Le droit de ne pas être en forme, le droit d'avoir fait une impasse. Enfin, si le premier qui n'a pas fait une impasse qui nous jette la première pierre. Mais encore une fois, si on sait quel est l'exercice en COEF 0 et qu'on sait quel est l'exercice en pas COEF 0, pour moi, ça ne change rien. Un mot sur le stress, Pierre Mathieu. À un moment, ça s'acquiert aussi, le stress.
Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je pense qu'on est moins stressé quand on sait à peu près à quelle sauce on va être mangé. Vous voyez, donc, je veux dire, par là, que, alors on en revient au sujet parce que c'est le contrôle continu, on est parti sur les épreuves finales du bac, mais ce qui se joue en ce moment à nouveau, parce que normalement ça aurait dû se jouer en 2021, effectivement la circulaire de Jean-Michel Blanquer de l'époque, il y a moins de 10% des lycées qui ont mis en place des plans d'évaluation d'établissement, donc ils n'ont pas joué le jeu de ce qui leur aurait été demandé. Je pense que la clé, c'est que la ministre Elisabeth Borne a cité l'exemple d'un COEF 0. C'est un exemple parce que chaque établissement a vocation à choisir un petit peu ce qu'il fait. Je pense que les élèves, ils ont d'abord, et leurs parents, ils ont besoin de savoir de façon plus systématique aujourd'hui, parce que je me répète, il y a beaucoup de professeurs qui expliquent aux élèves à quelle sauce ils vont être mangés, si on passait l'expression. Mais ils ont besoin que systématiquement, on leur dise, voilà, vous aurez tant d'épreuves durant le trimestre. Certaines d'ailleurs des épreuves ou des notes ne seront pas données par moi, professeur, mais par mon collègue, dans le cas d'un bac blanc, anonyme, etc. Donc comme ça, il y a plusieurs exercices. Et je crois qu'on est d'accord, Fabien Sattès, pour dire, pas de coefficient zéro, mais vous aurez X notes, et parmi ces notes, la moins bonne sera enlevée. Déjà, voilà, donc il y a ce fameux droit à l'erreur pour,
c'est mieux,
non pas nier l'existence du stress, parce que franchement, mais pour le gérer et apprendre aux élèves à le gérer. Voilà.
Nathalie, sur l'appli, nous dit ceci, est-ce que le problème ne vient pas du fait que l'accès aux études supérieures s'est calé désormais sur le mode de compétition des entrées en classe prépa? Auparavant, on pouvait toujours s'inscrire à la fac, mais maintenant, comme il n'y a pas de place pour tout le monde après le bac, la sélection a été mise en place partout, à l'instar des filières sélectives.
Alors c'est vrai, c'est faux. Évidemment, quand vous voulez faire du droit à Paris 1 ou à Paris 2 à Paris, vous êtes en fait sélectionné parce qu'il n'y a pas assez de place dans les amphis. Il y a beaucoup de cursus en France qui sont loin d'être remplis. Et le problème, c'est que c'est souvent des cursus pour lesquels il y a clairement des besoins d'emploi demain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil d'ailleurs pour trouver mon master. On se focalise sur quelques filières ou quelques universités ou écoles qui sont très demandées et qui ne peuvent pas prendre tout le monde. Ça obère le fait que dans beaucoup d'autres endroits, il y a de la place et le gap démographique qui vient maintenant, va faire qu'il y aura probablement de la place dans énormément d'endroits. Donc, oui, on a toujours les mauvaises nouvelles. Quelqu'un qui va vous téléphoner au téléphone sonne pour dire « Mon enfant n'a pas été pris à tel endroit parce qu'il demandait quelque chose qui était demandé par une multitude de monde. » Donc, qu'il y ait une possibilité pour les établissements d'affecter, de choisir leurs élèves, c'est important. Mais c'est vrai aussi que les élèves, aujourd'hui, sont plus stressés qu'avant, parce que Parcoursup, c'est en un coup. On clique et on sait où on en est. On a son destin, en quelque sorte, en un clic, alors qu'il fut un temps où on recevait des courriers, pas toujours le même jour, donc le stress était un peu, entre guillemets, dilué. Il existait, mais il était un peu plus dilué. Aujourd'hui, il est concentré.
Enfin, il est aussi, il était concentré à notre époque sur un moment. Moi, je me souviens, j'avais marqué sur mon bulletin, a su choisir sa cible, ce qui voulait dire, c'est pas trop fatigué pendant l'année, mais au moment de l'examen, poum, a su réviser aussi. Enfin, on a tous été pareil dans à ces âges-là, ces fameux Grégoire Ancel, ces fameux plans locaux d'évaluation qui auraient dû effectivement être mis en place dès la réforme du bac et puis qui ont tardé à l'être. Expliquez-nous pourquoi ça grince chez certains profs pour cette mise en place là.
Je pense qu'il y a des fois un manque de temps, et puis peut-être aussi, c'est évoqué par une personne qui a appelé sur la question de la liberté pédagogique. Je pense que certains enseignants considèrent que là on porte atteinte à leur liberté et à l'organisation d'évaluation. Ouais, de noter. Mais c'est tout l'inverse. En fait, plus il y a de transparence, plus on dialogue, plus on comprend les attendus de l'évaluation. Ça a été évoqué tout à l'heure, plus c'est gagnant pour tout le monde. Et l'avantage de ce plan local d'évaluation, c'est qu'il permet d'écrire noir sur blanc ce qui se passe quand un élève ne vient pas, par exemple, à un cours, à une évaluation. Parce que ça arrive, on évoquait les élèves stratèges. Il y a des élèves qui, des fois, sont extrêmement pas en forme le jour d'aller composer. Donc, il y a un travail éventuellement proposé par l'enseignant. Mais est-ce que c'est normal? Et combien de fois on accepte qu'un élève qui joue la stratégie en disant « Oh là là, je suis pas prêt pour celle-là, je vais peut-être avoir une gastro-entérite et ça fait du travail pour les enseignants aussi. Donc, il faut avoir conscience de ça par rapport à l'objectif qu'on entendait tout à l'heure, de Parcoursup, c'est vraiment ça l'enjeu, et la question du calendrier, ça a été évoqué, on n'est pas d'accord avec ce calendrier-là non plus.
On a créé un système, Pierre Mathieu, où de toute façon, tout le monde sera toujours stratège, enfin on ne peut pas ne pas être stratège. On a créé le système, il est fait comme ça désormais.
C'est un peu normal de l'être. Après, sur les plans dont on vient de parler, le pari quand même, c'est que les enseignants fassent communauté, c'est-à-dire que faut qu'au niveau d'un lycée, les enseignants en lien avec l'équipe de direction de l'établissement, hein, sachant que les proviseurs et proviseurs adjoints ont tendance à dire ce qui se passe dans les classes et les profs qui gèrent.
Bah oui.
Que les profs entre eux-mêmes, hein, ce qui ne marche pas toujours, que les profs entre eux se réunissent et se disent comment on se met tous d'accord pour, par exemple, enlever la moins bonne des notes qu'on donne. Un prof ne le fait pas,
évidemment.
Voilà. Et ça, c'est quand même un pari.
Est-ce que c'est pas national même de prendre ce genre de décision plus que local?
Non, parce que ce serait du top-down. Il faut laisser aux communautés enseignantes locales la possibilité et la responsabilité de s'organiser.
C'est vrai.
Ça marchera jamais. S'il y a un texte national, ça marchera jamais. Si on impose aux gens, ça ne marchera pas.
C'est vrai, mais du coup, moi, si je suis parent, je dis alors, tu sais quoi, dans ce lycée, t'as plus le droit à l'erreur que dans celui-là. T'es sûr que tu veux pas aller dans celui-ci? Enfin, je veux dire.
Et les bonnes pratiques se mettront en place. C'est-à-dire que si un lycée met en place des choses, les autres se rendront compte que c'est plutôt pas mal et ils iront voir. Mais fondamentalement, c'est que chaque enseignant se dise je vais parler avec mes collègues, on va se mettre tous d'accord pour faire pareil.
Oui, chacun évidemment voit les choses à sa porte et c'est bien normal. Voici Eve sur WhatsApp qui dit j'ai passé mon bac en 2019, j'ai une moyenne de 16 sur 20 tout au long de l'année, mais j'ai eu 13,8 au bac. Tout s'est joué sur une semaine, mi-juin. Nous enchaînions les épreuves sur quelques jours seulement. Ma moyenne au bac n'a donc jamais reflété mon investissement tout au long de l'année. Et j'aurais aimé avoir davantage de contrôle continu, que je trouve plus juste et égalitaire. Il pourrait y avoir à l'inverse quelqu'un qui dise « Moi, au moment du bac, j'ai eu une révélation, ça a été génial, et je me suis retrouvé avec 16,5. »
C'est plus vrai dans le sens de votre auditrice.
Mais du coup, ça veut dire aussi que je sais où placer mon effort, et je sais le faire quand il le faut.
La réforme a mélangé les deux, enfin associé les deux, le contrôle final et le contrôle continu.
Voilà, en tout cas, ce qu'on espère, si je puis dire, c'est que chacun aura à peu près la bonne méthode, et celle qui consiste à dire on en enlève une dans l'année, mais je ne vous dis pas laquelle c'est d'abord, ça me semble être le plus intelligent. Je retiens une chose aussi, le téléphone sonne, il faut ouvrir vos chakras, c'est ce que j'ai entendu, que chacun ouvre ses chakras, les profs, les élèves, les parents et tout le monde, enfin, finalement ça facilitera les choses. Je vous remercie tous les deux chaleureusement de votre présence dans le téléphone sonne, et à tous pour vos nombreux appels.